Fréquence protestante, La valeur de l'homme, Emmanuel Taïeb.
À la recherche de Denise Holstein. Bonjour à toutes et tous. En cette année 2020, nous commémorons le 75e anniversaire de la libération des camps de concentration et d'extermination bâtis par les nazis en Pologne. Le mot libération est un peu impropre car il ne s'agissait pas d'un but de guerre. Mais enfin, les troupes alliées tombent sur ces camps et révèlent au monde ce qu'on savait déjà. L'Allemagne a mené une guerre dans la guerre contre les juifs européens, tuant 6 millions de personnes, dont 1,5 million d'enfants. Au sortir de la guerre, la parole des survivants est indicible et apparemment inaudible. Et il faut attendre les années 1970 pour que l'ère du témoin commence, que l'ampleur de la Shoah soit enfin révélée, y compris bien sûr par les historiens, et avec elle quelques grands procès de nazis et de leurs complices, notamment en France Paul Touvier, chef de la milice à Lyon, et Maurice Papon, secrétaire général de la préfecture de Bordeaux, condamné à 10 ans de réclusion. Mais avec le temps, les témoins directs disparaissent, il n'y en a plus qu'une centaine en France. La mémoire institutionnelle de l'extermination existe bien, avec ses musées, ses plaques et les visites sur les lieux du crime, comme le centre de mise à mort d'Auschwitz. Sans passeur, pourtant, comment s'immerger dans le passé? Comment éprouver des émotions devant les traces et les ruines? Et comment prévenir le retour d'un antisémitisme meurtrier? Il faut le rappeler. La Shoah n'est pas un lointain phénomène antique, elle est notre contemporaine et irrigue tout le présent européen. Alors peut-être faut-il que chacun noue le fil de son histoire avec celle des témoins, que chacun s'attelle à saisir ce qu'a rendu possible la catastrophe pour que l'émotion surgisse. Baptiste Antignani a précisément entrepris cette démarche en partant à la recherche de Denise Holstein, rescapée d'Auschwitz qui vécut comme lui à Rouen. Non seulement Baptiste Antignani a retrouvé Denise Holstein, mais a correspondu avec elle, l'a rencontrée et s'est rendu à Auschwitz fort de cette nouvelle expérience. Il en a tiré un livre et un film intitulé « Une vie nous sépare ». Accompagné et produit par Myriam Veil pour Fédération Entertainment avec France Télévisions. Ils sont mes invités aujourd'hui. Bonjour Baptiste Antignani.
Bonjour, merci de nous recevoir.
Je vous en prie, au moment du documentaire, vous étiez étudiant à Caen. Vous êtes aussi co-réalisateur du film Une vie nous sépare, donc avec Raphaël Gosse-Gardet, et auteur du livre éponyme qui vient de sortir aux éditions Fayard. Bonjour Myriam Veil.
Bonjour.
Myriam Veil, vous êtes directrice du pôle documentaire de Fédération Entertainment. Dans une vie antérieure, vous avez été journaliste presse, radio et télé, et notamment rédactrice en chef du Grand 8 sur C8, puis productrice du Grand Journal sur Canal+. Est-ce qu'on peut, Myriam Veil, donner les infos relatives à la diffusion du documentaire Une vie nous sépare?
Oui, bien sûr. Donc, le documentaire a été diffusé à 20h50 le 4 mars, donc mercredi dernier, sur Canal+ Family, et il est disponible en télévision de rattrapage, comme on dit, en catch-up en anglais, sur MyCanal, et il sera diffusé un petit peu plus tard par France 3 Région, François Normandie, qui nous a accompagnés, qui est la région de Baptiste, le 6 avril, et par France 3 PACA, et ça on est très très contents parce que Denise Holstein vit à Antibes.
Vit à Antibes, d'accord, dans le sud. Et il y aura des présentations publiques, notamment une au Mémorial de la Shoah.
Exactement.
Le 26 mars.
26 mars, 19h30, au Mémorial de la Shoah, suivi par un débat d'ailleurs auquel Baptiste participera, et moi-même. Et puis, il va y avoir également des projections qui vont être organisées avec l'association Cinéma pour tous, animée par Isabelle Giordano, qui vont permettre de faire connaître le film à des publics de collégiens, de lycéens, emmenés par leurs professeurs.
C'est vrai que c'est un public, c'est pas le seul public, mais c'est un film qui peut être un vrai outil pédagogique. On va voir pourquoi. Alors, je voulais vous interroger tous les deux sur, en commençant peut-être par Baptiste, sur la genèse de ce documentaire que vous racontez un peu dans le documentaire et un peu dans le livre, mais enfin, racontez-nous quand même ce qui s'est passé.
Bah, la genèse du film, c'est avant tout une histoire de classe, une histoire de manuel scolaire, une histoire d'apprentissage de l'histoire, par ma classe en terminale, accompagnée par un très très bon prof.
On va en parler, qui s'appelle Nicolas de Montfort.
Voilà, très investi sur le sujet, qui nous a fait travailler pendant de nombreux mois sur la vie de Denise Holstein en lisant ses deux ouvrages, et une préparation en amont d'un voyage de mémoire sur les traces de Denis Holstein à Auschwitz avec plusieurs autres classes de Normandie.
Donc en fait, votre enseignant connaissait déjà Denis Holstein, c'est-à-dire que lui avait fait une espèce de travail en amont, il savait qu'elle avait été déportée
Complètement, en fait, il s'est rendu compte en étant professeur au lycée Pierre Corneille de Rouen qu'elle avait été elle aussi lycéenne et collégienne dans certains établissements de l'agglomération. Donc c'est lui en fait qui s'est rendu compte que Denise avait été une lycéenne, une jeune qui avait parcouru les mêmes couloirs que nous.
Il y a une plaque à son nom, donc elle a survécu, hein, Denise Holstein, elle a 92 ans aujourd'hui. Il y avait une plaque à son nom, il y a une salle à son nom. Donc c'est comment? Racontez-nous.
Il n'y a pas de signaux en tout cas au lycée Pierre Corneille. Ce qui va peut-être changer avec le film, on espère. En tout cas, au collège, parce qu'elle a été aussi scolarisée dans un collège, le collège Barbé d'Aurevilly de Rouen, il y a une plaque. Il y a une salle qui porte son nom. D'ailleurs, c'est
vous
le premier contact.
Vous faites vos répétitions de musique là-bas.
De musique avec des copains. Et c'est le premier contact que j'ai avec cette femme, c'est-à-dire le nom d'une plaque, que je n'ai pas regardé.
Au début.
C'était un nom commun. On passait devant, sans y prêter vraiment attention, mais je sais maintenant qui elle est.
Oui, nous aussi, on va le savoir. Donc l'idée du documentaire, on va en parler, elle commence un peu à se faire jour. Myriam Veil, Baptiste Antignani vient vous voir. J'imagine que vous êtes très sollicité par plein d'apprentis cinéastes. Qu'est-ce qui se passe? Vous sentez une sensibilité chez ce garçon ou c'est le sujet?
Je sens une sensibilité, je sens une détermination aussi très importante. Et ça, c'est vrai que ça a l'air trivial, mais on est évidemment très, très sollicité quand on est producteur. Et quand on se retrouve face à un jeune homme de 18 ans à l'époque qui est capable d'appeler, de laisser des messages à répétition, à répétition, à répétition, on finit par se dire, là, ça fait quand même 25 textos, 30 messages téléphoniques, il faut que je lui réponde.
Quand même.
Ce qui n'est pas évidemment du snobisme, mais on est tellement sollicité que c'est compliqué de réussir à répondre à toutes les sollicitations. Je voudrais juste revenir sur cette histoire de plaque. J'ai appris hier qu'une plaque va être posée dans le square Verdrel.
Du cabinet de dentiste du père de Denis Holstein.
Exactement. En présence, je crois, du maire de Rouen, Yvon Robert. Elle va donc être posée, je crois, le 8, donc demain, a priori.
D'accord, c'est une info importante. Alors, pour rester sur la jeunesse du film et votre contact, au fond, avec la Shoah d'abord, Auschwitz, Baptiste Antignani, vous racontez que, alors votre prof donc vous emmène à Auschwitz, vous en avez parlé avec une d'autres classes, et là, ça se passe pas exactement comme prévu pour vous, racontez-nous.
Non, mais moi je pense, et je vais reprendre les mots d'Anna Dvorka dans le documentaire, c'est vrai que je pars à Auschwitz en ayant l'impression de deux choses, qu'il faut absolument que je sois ému et qu'il faut absolument que je comprenne ce qui s'est passé en étant sur le lieu. Donc je pars avec beaucoup d'attentes avec ce voyage, j'ai l'impression que je vais être changé, tout ça, et une fois sur place, je ne ressens rien, mais en tout cas pas l'émotion à laquelle je pensais accéder. Donc c'est ce sentiment-là qui m'a énormément troublé et que j'ai masqué. J'ai faim d'être ému, j'ai essayé de faire comme les autres.
D'essayer d'être submergé par quelque chose, en tout cas de laisser de vous ouvrir, mais rien ne se passe. Qu'est-ce qui vous a bloqué? Vous dites à un moment dans l'ouvrage, c'est ce lieu même qui finalement bloque, c'est-à-dire que Auschwitz, c'est un peu des ruines, il y a encore les baraquements, etc. Mais le lieu finalement n'invite pas à la mémoire et n'invite pas à l'émotion.
En tout cas, le lieu rend bien compte de l'absurdité complète et de la démence du système génocidaire. Ça, c'est certain. Mmh. Après, c'est plus de 6 millions, comme vous l'avez dit. 6 millions, c'est assez abstrait.
Mmh. Un million à Auschwitz.
On n'est pas dans le cas individuel. Donc, dans la masse, c'est compliqué d'aller chercher une émotion.
Et donc, il vous fallait peut-être cet être individuel, c'est-à-dire qu'il fallait un ancrage, il fallait que la Shoah soit portée par quelqu'un. Vous cherchiez une figure, peut-être?
Oui, moi, je cherchais une personne pour incarner l'histoire. Et l'histoire que je connaissais, parce qu'on a eu un très, très bon professeur, c'était pas un problème d'enseignement, de connaissances historiques. En étant un peu à Auschwitz et face à ce manque de sentiments et d'émotions, je me suis dit que ce serait bien quand même d'aller un peu plus loin, de chercher plus. Et l'émotion est un merveilleux moyen d'arriver à une connaissance ancrée, solide, et qui nous fait devenir un acteur dans la société.
Parce que finalement, des émotions, vous en avez eu, mais après, c'est-à-dire que vous avez eu une inquiétude, qui est une émotion, sur votre absence d'émotion.
Exactement.
Et vous avez eu une curiosité. Et donc, vous vous êtes dit, là, il va falloir que... Alors, vous êtes quelqu'un qui aimait filmer, vous filmez votre vie, dites-vous. Là, vous êtes dit, il va falloir faire un documentaire, enfin, il va falloir filmer quelque chose, filmer ce trouble.
Ça se fait...
Baptiste Antignani.
Très progressivement, en tout cas. La première question, c'est déjà formuler l'interrogation. C'est-à-dire d'avouer, d'être sincère avec soi-même, je n'ai rien senti, et de demander pourquoi, se demander pourquoi. Ça, c'est la première étape qui a mis beaucoup de temps, au final, de se dire pourquoi je n'ai rien senti. Dans un second temps, c'est rentrer en contact avec Denise, qui se fait assez rapidement, en demandant à mon professeur son numéro de téléphone, après un cours en plus de récapitulatif du voyage. Donc, chacun donne ses impressions. Je me tais, et puis à la fin du cours, je vais le voir pour avoir son numéro de téléphone. Du coup, il y a toute une première partie en fait de conversation, de partage sur la mémoire de la Shoah, principalement sur sa survie dans les camps. Et à un moment donné, je me dis, ça serait pas mal que j'aille la rencontrer à Antibes pour filmer son témoignage et le récupérer pour le projeter à mes camarades.
Oui, l'idée c'était de dire, je vais en parler à mes camarades et on va essayer d'incarner ça, quoi. Je vais filmer Denise Holstein.
Oui, parce qu'on travaillait tous sur la mémoire de cette femme. Voilà, moi je me suis senti concerné par la thématique et avec ce non-sentiment, c'est tous ces troubles, voilà, moraux. Je me suis dit, il faut que j'y aille. Donc, la première démarche d'appeler, c'était d'aller la rencontrer pour filmer son témoignage.
C'est pas évident d'appeler quelqu'un qu'on connaît pas, une vieille dame. Des fois, on a un peu la flemme d'appeler son grand-père ou sa grand-tante. Et puis là,
et pour lui Myriam avouer Veil. Ça, et pour lui avouer ça, c'est-à-dire que tu ne lui as pas avoué tout de suite, parce que c'est quand même pas évident de dire à une survivante des camps, je suis allée à Auschwitz et je n'ai rien ressenti. Mais encore une fois, c'est ce que dit Annette Vivurka dans le film, ce n'est pas une absence d'émotion, c'est une absence d'émotion que tu pensais devoir ressentir.
Oui, l'émotion attendue,
voilà,
prescrite.
C'est-à-dire, et c'est ce que tu m'as dit d'ailleurs la première fois que tu es venu me voir, c'est que tu étais devant les piles de chaussures, tu étais devant les vestiges des corps qui ont été, tous ces individus qui ont été exterminés sur place, et tu essayais d'imaginer des proches à qui ça aurait pu arriver, qui auraient été embarqués dans cette extermination. Une espèce de convocation comme ça qu'on imagine bien, qui est finalement assez classique chez les enfants. Ah, et si moi, ça m'arrivait. Voilà, donc je pense que tu ressentais ça. Ça m'a rappelé, quand t'es venu me voir la première fois, ça m'a rappelé mes propres émotions quand je suis allée à Theresienstadt, donc qui n'est pas un camp d'extermination, mais qui était un camp de concentration en Tchécoslovaquie à l'époque, puisque c'était encore un seul pays dans le bloc communiste. Et la seule chose qui m'avait véritablement émue sur place, c'était une petite plaque qui expliquait que Robert Desnos était mort dans une toute petite cellule de Thérésine. Et Robert Desnos, pour moi, c'était une poésie que j'avais apprise à l'école primaire. Donc, c'était rattaché à quelque chose de très précis, d'un texte, la fourmi à X pattes, avec un, je ne sais plus
on
quoi,
voilà,
avec un chapeau sur la tête, enfin, je ne sais plus. Et donc, Desnos, pour moi, c'était quelque chose de très précis. Et donc, je trouvais tragique la disparition de ce monsieur qui était donc lié très, très fortement à mon enfance, dans cet endroit, au milieu de nulle part. Et encore, c'est pas au Auschwitz, c'est Thérésine, c'est pas très loin de Prague.
Oui, donc il faut une figure et il faut une incarnation. Myriam Veil, quand Baptiste Antignani vient vous voir, il a un projet de documentaire plus ou moins bien dégrossi. Est-ce qu'il y a une réflexion aussi sur ce qui allait être le dispositif du film? C'est-à-dire, Baptiste filme un peu, il y a aussi une caméra qui l'accompagne, on essaie de montrer le film à Denise à la fin, en tout cas sa deuxième visite à Auschwitz dont on va parler. Il y a une réflexion d'ensemble quand même.
Alors, bien sûr, et c'est une réflexion qui a été menée avec Baptiste, mais la première des choses, enfin, il y a eu deux réflexions immédiates. La première, c'était je ne veux pas que Baptiste retourne voir Denise sans qu'on documente ce moment, parce que je ne voulais pas qu'on perde la magie des premiers instants, même si Baptiste et Denise s'étaient déjà rencontrés une fois de visu. Et la deuxième chose, c'était je voulais que Baptiste soit évidemment accompagné par un co-réalisateur ou une co-réalisatrice, en l'occurrence Raphaël Gosgardet, mais je ne voulais pas qu'il soit dépossédé de son projet. Et j'en ai parlé avec plusieurs réalisateurs capés, qui étaient évidemment extrêmement touchés et extrêmement intéressés par le projet, mais qui voulaient en faire leur film. Et Raphaël Gosgardet a été en ça extrêmement précieuse, parce qu'elle a respecté cette envie de Baptiste et ce choix et la genèse du projet qui était celle de Baptiste Antignani.
On parlait de ce coup de téléphone et de ces visites. Alors, une vie vous sépare, 75 ans vous sépare. Il y a là, vous vous êtes dit, il y a un gouffre générationnel. Comment je vais faire pour le combler, Baptiste Antignani?
Non, je me suis pas posé la question. J'y suis allé un petit peu sans réfléchir. J'y suis allé par curiosité. La curiosité vous pousse à faire des choses parfois. Voilà. Et puis dès le premier appel, en fait, avec Denise, il y a eu un sentiment de feeling qui est très très bien passé. Denise est quelqu'un de assez rock'n'roll. Hein. C'est pas du tout dans la caricature de la vieille personne. Voilà.
Elle est très alerte. On va en parler. Elle est très alerte. Elle a toute sa tête.
Elle a toute sa tête. Elle a tout son humour. Elle a tout ça. Donc et puis en plus, elle a une voix assez enfantine. Elle a une voix au téléphone. On pourrait croire que c'est une jeune fille. Voilà. Donc non. Il y a eu tout de suite un bon feeling. Voilà.
C'est quelqu'un qui avait fait qui a mis du temps à parler, mais qui à un moment a fait des visites, on le voit dans le documentaire, a organisé, en tout cas a été guide pour des groupes à Auschwitz. Donc elle avait déjà cette idée d'une transmission et cette idée d'une pédagogie.
Oui, mais complètement. C'est d'ailleurs Serge Klarsfeld et un ancien professeur de Denise qui lui ont dit de témoigner pour la première fois. Et ça a été une grande partie de sa vie, en tout cas le témoignage. Ça a représenté de nombreuses années, de nombreux déplacements. Ça a complètement guidé la troisième partie de sa vie. Donc voilà, c'est très important. Elle avait un témoignage qu'elle a enregistré sur une cassette et qu'elle faisait passer dans de nombreux établissements normands et puis français. Et puis elle a écrit deux livres aussi. Donc voilà. Elle avait déjà un rapport avec son témoignage, avec son vécu. Elle avait déjà mis une distance avec son histoire.
Elle avait d'autres correspondants. Est-ce qu'elle a eu des correspondants dans sa vie? Parce que finalement, elle vous répond immédiatement et avec un accueil très chaleureux. Je me suis posé la question.
Oui, complètement. Parce que en fait, elle faisait des visites, voilà, pour témoigner dans les établissements. Et à l'époque, en tout cas, il y avait beaucoup de jeunes qui lui envoyaient des lettres et puis commençaient à s'envoyer des lettres pour partager. Donc le fait d'être proche de la jeunesse, elle l'a toujours été.
C'est peut-être vous qui êtes allé le plus loin. On va en parler. On va l'entendre. On va l'écouter. Denise Holstein. Elle va raconter l'arrestation de sa famille à Rouen en janvier 1943.
Est-ce que vous pouvez me raconter la rafle de Rouen?
Oui, tous les Israélites ont été arrêtés dans la nuit. J'étais dans la cuisine en train de faire du café. J'ai aperçu deux hommes qui se dirigeaient vers la maison. J'ai tout de suite été dire à mes parents, il y a des policiers qui arrivent, parce que la ville était vide complètement. Le soir, il y avait le couvre-feu et personne ne pouvait sortir.
Donc vous aviez directement compris que c'était pour...
J'ai compris tout de suite que c'était l'arrestation. Et là, ils sont montés dans l'appartement, puisqu'on était le cabinet dentaire était en bas et l'appartement au premier. Et ils sont montés avec maman, ils ont dit « Préparez-vous une petite valise ». Et moi, j'ai voulu aller dans la salle de bain. Et ils m'ont interdit de fermer la porte. Okay. Ils avaient peur que je me sauve. On est parti au commissariat à côté de l'hôtel de ville.
Oui.
Et là, on a vu les gens arriver et on a compris que c'était une rafle générale. C'était les vieux, les enfants, la totalité des juifs de Rouen.
Vous le revoyez, ça, encore?
Ah oui, très bien. À un moment, ils nous ont apporté du café dans des assiettes creuses. On a bu le café, puis on était assis par terre. Ouais. Et puis vers 6 heures du matin, on s'est levé et on est parti à pied à la gare de Rouen.
La gare de Rouen.
Où on a pris le train normal pour Paris. Et arrivé à la gare Saint-Lazare, on nous a collé sur le côté et on a vu arriver les autobus et mon père a compris, il a dit on va à Drancy.
La valeur de l'homme, fréquence protestante, à la recherche de Denise Holstein. Nous sommes en compagnie de Baptiste Antignani et Myriam Veil. Alors on vient d'entendre la voix de Denise Holstein. Vous dites dans votre livre et dans le documentaire, c'est une femme qui a changé votre vie. Dites-nous, Baptiste Antignani, ce qu'elle a changé dans votre vie.
Bah, plein d'égards. Déjà, dans le premier point, c'est vrai que je suis un jeune cinéaste. Voilà, donc il y a toujours eu cette volonté pour moi de faire du cinéma. Elle m'a apporté un premier sujet incarné, sincère, qui m'a demandé beaucoup de travail de mise à nu. Voilà, j'ai beaucoup grandi avec ce film. Donc déjà ça, sur ce plan-là, de ma passion. Et d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue... elle a fait de moi, en tout cas, un jeune homme, voilà, presque un homme. Mais elle m'a donné énormément d'éléments de compréhension sur beaucoup de choses, sur plein d'aspects de la vie, des relations humaines. Aussi beaucoup de valeurs, la valeur du temps, la valeur de la jeunesse, de profiter. On parle pas simplement de la mémoire de la Shoah et de son traumatisme. Moi, j'en parle très très peu en fait avec elle, parce que c'est pas le cœur de notre relation, la survie et l'horreur de ce qu'elle a vécu. Mais en tout cas, elle m'a transmis énormément d'envie de vivre. Et c'est vrai que quand on est très proche d'une personne comme Denise Holstein, on peut s'empêcher de vouloir profiter. Et réfléchir et devenir aussi de se battre pour certaines choses. Voilà.
Votre correspondance avec elle et le fait que vous l'ayez vue, les coups de téléphone, c'est 2 ans à peu près la durée.
Oui, complètement. C'est à peu près 1 an avant que me vienne l'idée de vraiment tenter l'expérience de faire un documentaire et d'essayer de chercher un producteur. C'est 1 an à titre de un appel ou 2 par semaine, donc voilà, bien plus que mes grands-parents, bien plus que quiconque, donc voilà, on forge des liens très rapidement au final.
Vous avez avec elle exploré la mémoire et vous avez notamment exploré sa mémoire, c'est-à-dire ce qu'on voit dans le documentaire. À un moment, vous allez aux archives, enfin alors d'abord vous allez aux archives à Rouen, puis vous allez dans les archives personnelles de Denise Holstein, et racontez-nous sur quoi vous tombez, Baptiste Antignani.
Le point de départ de ça, c'est l'envie de mettre des photos, des visages sur des noms, de vraiment comprendre qui était la famille de Denise, quelle était son enfance, les lieux qu'elle fréquentait. Donc elle m'a laissé la possibilité en tout cas de fouiller son placard, ce que j'ai fait, et on s'est mis à la recherche petit à petit d'une lettre, voilà, la dernière lettre des parents de Denise, envoyée depuis Drancy vers Loucienne, le centre l'UGIF, où elle était accueillie avec de nombreux enfants.
Elle y était allée parce qu'elle avait attrapé une maladie contagieuse, et donc les Allemands l'ont enlevée
de ses parents. Voilà. Et je me suis mis à la recherche de cette lettre en pensant que voilà, ça pourrait être un catalyseur plutôt intéressant pour le film et puis pour la narration. Et puis moi, ça m'intéressait de voir ça. Donc j'ai retrouvé, en tout cas pas la dernière, mais l'avant-dernière lettre de ses parents. Et ça a aidé en tout cas à beaucoup de choses dans le documentaire. Ça m'a aidé à lire les mots.
Oui, parce que vous lisez la lettre devant Denise, la lettre de son père.
Qu'elle avait elle-même oubliée. Voilà. Parce que, comme elle le dit dans le documentaire, elle met tout ça dans le placard, pas pour oublier, mais pas pour avoir ça sous les yeux toute la journée. Donc voilà, ça a été un retour dans le passé à la fois douloureux pour elle, et en même temps, je crois que ça lui a fait beaucoup de bien. Parce qu'à l'heure où elle commence à oublier certaines choses, elle s'est aussi souvenue de l'amour de ses parents, qu'elle avait, mine de rien, un petit peu oublié. Donc voilà, ça a été dur. Moi, ça m'a permis après de mieux la comprendre. Et puis surtout, ça nous a permis de créer un lien, de créer un pont entre elle et sa famille, qui n'avait pas connaissance de cette lettre.
La mise en scène du documentaire, Myriam Veil, c'est une mise en scène où on voit Baptiste. C'est-à-dire que l'idée était aussi de filmer ces moments très intenses et ces moments émotionnels. Donc ça impliquait pour Baptiste d'être aussi dans le film, d'être des deux côtés de la caméra.
L'idée c'était, et puis après je vais peut-être laisser la parole à Baptiste sur le dispositif, mais l'idée était effectivement d'avoir à la fois un film à la première personne, puisque c'est Baptiste qui est le narrateur, et en même temps de pouvoir montrer la relation très forte, très puissante qui se crée et qui s'approfondit au fur et à mesure entre Denise et Baptiste. Et donc pour ça, on a à la fois besoin d'avoir Baptiste à l'image et d'avoir Baptiste en voix off qui nous raconte l'histoire.
C'était l'idée de mise en scène, hein, Baptiste, y aller des deux côtés de la caméra, y aller aussi, y compris, voilà, en vous mettant à nu, presque.
Dans un premier temps, pas du tout. Dans un premier temps, c'est vraiment... Alors, on utilise, et c'est... Je félicite d'ailleurs le travail du chef monteur, Fred Trita, qui a fait un travail incroyable sur le documentaire, et qui a utilisé beaucoup d'éléments visuels. Au départ, moi, je tourne avec un caméscope, voilà.
Qu'on voit à un moment dans un reflet.
J'ai une caméra qui est plutôt très bien, mais je décide d'acheter, la veille de mon départ, pour la première rencontre avec Denise, un petit caméscope, parce que je veux la voir. Voilà, je veux pas être derrière une caméra, je voulais aussi filmer ce premier moment.
Un caméscope qu'on n'a pas besoin de tenir à hauteur d'œil.
Donc je m'entraîne le soir à essayer de cadrer par le bas et avoir un contact visuel avec la personne. Donc je m'entraîne à ouvrir des portes, etc., pour voir son regard et pour filmer cette première rencontre. Donc dans un premier temps, je veux filmer simplement en caméscope, sans aucune équipe technique. Voilà, dans l'insouciance et la candeur de la jeunesse, je me dis qu'il faut que je sois dans un cercle fermé et qu'il y ait que mon intimité, que j'avais mis quand même 1 an à créer et qui était profondément sincère. Donc de là, trouver un producteur certes, mais une équipe technique, un ingénieur du son, C'était pas mon envie de départ.
Oui, tu voulais
on être en, toujours au son.
En huis. Oui, c'est très
important. C'était un huis clos.
Tu voulais un huis clos. Alors, c'est vrai que ces images, on les a utilisées. Il y en a quelques-unes qu'on a utilisées. Mais il fallait évidemment progresser, aller beaucoup plus loin.
Ça a été tout le travail d'écriture du film. Voilà, j'ai eu la chance de travailler beaucoup avec Myriam, Raphaël Gosgardet, Fred Trita. C'est un film collectif, hein, on peut le dire. Mais aussi en résidence d'écriture, où on me l'entendait, où c'est la première fois. Où là, pour le coup, on me considérait comme un jeune auteur. Voilà, on me donnait une forme de légitimité que je n'avais, pour le coup, pas encore eue. Et on me dit qu'il faut que je me mette à nu, il faut que je raconte mon histoire, que je suis le personnage aussi principal du documentaire, et qu'il faut qu'on me voit à l'écran. Donc voilà. Au départ, on pense trouver un style de mise en scène avec des intentions, et puis au final, la vérité, c'était qu'il fallait que je me mette à nu complètement. Et ça a été aussi un processus de création assez douloureux au final. Mais que j'ai beaucoup apprécié faire avec toute cette équipe.
Voilà. Le film est Myriam Veil.
Pardon, j'en profite pour remercier la région Normandie qui a beaucoup soutenu le projet du début de la genèse, avec la résidence au Moulin d'Andé, jusqu'à l'aide à la production. La région Normandie, la région Île-de-France, la Fondation pour la mémoire de la Shoah nous ont beaucoup, beaucoup soutenus dans l'élaboration de ce documentaire.
Le film est à la fois le récit qu'on vient d'un peu d'avoir de ce qui vous est arrivé, vous, à Auschwitz, et de cette réflexion-là, en tout cas de quand vous avez visité le camp. Donc c'est à la fois un récit, mais c'est aussi un film sur la mémoire, sur les difficultés de la transmission de la mémoire. C'est un film sur une rescapée. Et évidemment, pour l'avoir vu, je trouve que c'est un film très tendre, très touchant, très très fluide, et qui est à l'opposé de formes d'hystérisation. Enfin, on prend vraiment son temps. Il y a des longs plans. Ça c'était une volonté aussi, Myriam Veil, de nous faire entrer dans le calmement dans cette question difficile.
Absolument. C'était une volonté collective. Il y a une volonté sur le rythme qui était d'ailleurs imprimée par Raphaël Gosgardet en grande partie. Et il y a aussi une volonté dans le choix de l'iconographie d'archives. On est allé chercher chaque photo de façon très très précise au mémorial de la Shoah. On n'a pas fait de ce qu'on appelle horriblement de Shoah porn, c'est-à-dire que toutes les photos ont été choisies avec soin. On ne voit pas de déportés en tenue rayée, on voit des gens qui viennent d'arriver et qui sont encore dans toute leur individualité, avec leurs vêtements de civil, avec leur identité.
Avant le dépouillement, par les nazis.
Exactement, et avant de ne devenir que des numéros. Et pour nous, ça c'était extrêmement important pour deux raisons. La première, c'est qu'on veut montrer des individus. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'on oublie souvent de citer les Tziganes qui ont été massacrés à Auschwitz. Et la deuxième chose, c'est qu'on voulait aussi que ce documentaire, il soit visible, y compris par les plus jeunes. Et moi, j'ai fait le test avec des enfants qui ont 10, 8 ans. Ce film est visible par des jeunes enfants. Il n'y a pas de corps décharné. Il n'y a pas l'horreur graphique comme on peut l'imaginer. Mais en revanche, ça dépeint effectivement le drame qu'a été la Shoah et le système concentrationnaire et d'extermination d'Auschwitz.
C'est pour ça que je disais que ça pouvait être un outil pédagogique. Il n'y a effectivement pas de spectacle de l'horreur en permanence.
Non, mais parce que je pense que la mise en scène du film est à l'image de la démarche, en fait. C'est pas une démarche qui se consacre sur l'horreur des camps, sur le témoignage de la survie des camps. Je pense qu'en préambule, avec Myriam, on avait deux motivations. C'était justement d'aller à l'encontre d'un film de témoignage qui est vu, revu, qui est important, mais qui a déjà été fait, voilà. Et le deuxième chose, c'est de pas tomber dans une forme de pathos. Voilà, le jeune homme qui rencontre la vieille dame, et voilà. Et ça se ressent beaucoup dans la mise en scène, dans les choix musicaux. Qui a été fait par un jeune compositeur qui s'appelle Arthur Lasnel, qui est un ami à moi qui a 19 ans. Donc c'est aussi, je remercie Myriam d'avoir aussi pris l'audace de signer aussi un jeune compositeur comme ça. Donc il y a eu tout ça en fait qui fait que dans la mise en scène ça se ressent, et on n'a jamais voulu que Denise nous témoigne de l'horreur et rentrer dans cette histoire-là par ce biais-là.
Oui, voilà. C'est pas un film où on va faire poser avec une caméra fixe la survivante qui va tout raconter. En revanche, c'est un film sur la vie, c'est-à-dire que c'est aussi la vie d'une survivante, c'est aussi la vie de Denise Holstein, et elle a, on va l'entendre, elle a eu quand même des difficultés évidemment à transmettre cette mémoire-là. On va l'écouter. Elle est avec ses filles et elle raconte quelques éléments de son expérience.
Quand on était petite et que papa il nous disait toujours il faut pas lui en parler, ça lui fait de la peine, alors on n'insistait pas.
Et on ne posait plus, pas de questions, on a posé des questions.
Puisque mon père, il nous disait de ne pas lui en poser. Alors on ne lui en posait pas. Toi, si on t'avait dit ça, tu n'en aurais pas posé non plus.
Non.
Je parle de notre enfance, on n'a jamais rien su, on n'a jamais parlé, on ne connaissait pas. On avait une famille qu'on ne connaissait pas. Mais tu n'as jamais éprouvé le besoin, toi, même toute seule, sans que je te pose des questions, de me parler de ta famille.
Mais j'avais l'impression que ça vous aurait fait tellement mal, je ne sais pas. Puis moi, ça me faisait très mal.
Bah, c'est ça.
Tu sais, pendant très longtemps, évoquer mes parents,
rien de ta famille.
C'est
effrayant. Tu avais une famille à Avignon, tu avais une famille en Lituanie, tu avais ci, tu avais ça, on ne savait rien.
Non.
Mais maintenant que tu parles, est-ce que tu ne te dis pas, par moment, si j'avais parlé à mes enfants quand ils étaient jeunes, si j'avais parlé à tout le monde, j'aurais eu une vie autre et j'aurais été peut-être plus heureuse? Tu ne penses pas ça?
Je ne me le dis pas parce que je ne pouvais pas parler. Est-ce que je peux dire à une enfant de 10-12 ans, tu sais, mes petits-enfants du ciel, on les a emmenés à la chambre à gaz, on les a brûlés?
Non, non, mais c'est pas possible forcément ça. Mais me dire, voilà, mon père était comme ça, ma mère comme ça, j'habitais là.
Je crois que je pouvais pas faire autrement.
Non, mais d'accord. Mais il faut que tu nous comprennes aussi.
C'était pas possible, ça. C'était coincé. Puis j'avais surtout l'impression que c'était tellement énorme que les gens comprenaient pas. C'est sûr que ça m'a fait beaucoup de bien de... Mais j'étais pas capable au départ de parler, c'est impossible.
Et nous aussi, on aurait sûrement eu une vie différente.
La valeur de l'homme, fréquence protestante, à la recherche de Denise Holstein, nous sommes en compagnie de Baptiste Antignani et Myriam Veil. Alors là, il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire que vous avez eu, Baptiste Antignani, votre présence, votre documentaire, a eu une influence positive, particulière sur Denise. C'est que elle-même s'est réemparée de sa vie, de sa difficulté à raconter ce qu'elle avait vécu. Et finalement, le documentaire libère sa parole.
Bah, en fait, c'est-à-dire que Denise, elle avait l'habitude de témoigner pendant de nombreuses années. Elle connaît son témoignage. Et le fait de témoigner, de libérer la parole, dans un premier temps, ça permet aussi de mettre une distance avec ses démons, ses traumatismes et tout ça. Donc pendant de nombreuses années, Denise a témoigné. Et voilà, moi je voulais pas ce témoignage-là. Je voulais aller trouver la vraie Denise. Enfin, en tout cas, c'est pas la fausse, mais en tout cas...
Denise plus intime.
Denise plus intime, Denise qui ne répète pas forcément ce qu'elle a déjà répété. Et ça a été ça aussi le travail de recherche d'archives chez elle. C'était l'idée de trouver un moyen d'aller à la rencontre de cette femme-là. Et oui, comme vous le disiez avant, c'est aussi un portrait de femme. Voilà, on est dans son quotidien. Donc quand je retrouve cette lettre-là, on pense que c'est important de la montrer à ses enfants. Et voilà, cette séquence qui montre bien... le silence qu'a régné dans cette famille, la fracture, comment vivre avec un traumatisme. Et c'est une séquence, c'est toute la deuxième partie du film, on l'a voulu comme ça. Je trouve traite de la mémoire d'une manière assez universelle. On est plus centré sur la Shoah, mais on est sur la mémoire d'un traumatisme. Et ça en devient d'une certaine manière universelle parce que ça peut très bien, la disparition d'un proche, un traumatisme, ça peut être n'importe quoi. Donc voilà, on a voulu traiter. Le traumatisme, la complexité de la transmission au sein d'une famille, mais c'est aussi une métaphore de la société, de comment on n'arrive pas à transmettre un traumatisme aujourd'hui.
Parce que ce que dit à un moment dans une séquence ultérieure la fille, une des filles de Denise Holstein, c'est que on n'avait pas le droit, dit-elle, de lui poser des questions, en tout cas pas le droit. Il fallait pas trop aller sur ce terrain-là, alors même que Denise faisait des témoignages. Donc il y a pas eu de transmission familiale, il y a eu un blocage. C'est coincé, dit Denise Holstein à plusieurs reprises, sa parole.
Et comme Serge Klarsfeld le dit, après être rentré des camps, voilà, il faut refaire une vie, reconstruire au plus vite possible. Denise s'est mariée, sans rentrer dans son intimité, mais s'est mariée très rapidement, avec un homme bien plus âgé qu'elle, sûrement dans une forme de recherche de protection. Elle a eu un enfant, deux enfants, et elle a voulu reconstruire très rapidement, peut-être trop rapidement.
Et puis elle a voulu aussi, elle a aussi voulu protéger sa grand-mère.
C'est-à-dire qui était toujours en vie
ouais, et qui vivait toujours dans le secret espoir que les enfants, donc c'est-à-dire les parents de Denise, allaient rentrer. Et donc Denise était coincée entre d'abord sa grand-mère qui pensait qu'il allait y avoir une bonne surprise, et puis ensuite la naissance de ses enfants et le fait de ne pas pouvoir, comme elle le dit elle-même dans le film, expliquer à ses enfants que des enfants du même âge avaient fini dans des chambres à gaz, et en plus aussi probablement qu'elle n'avait pas été capable, évidemment la pauvre, de les sauver, qu'elle avait été complètement impuissante, qu'il avait fallu qu'elle lâche la main sans comprendre à ce moment-là pourquoi. Donc elle était prise comme ça dans cette nasse, et elle le dit très bien à sa fille Catherine à ce moment-là. Comment voulais-tu que je te parle de ça à toi qui étais une enfant, dans cette scène dont on a entendu un extrait tout à l'heure, il y a quatre générations qui sont autour d'un baba au rhum. Il y a Denise, il y a sa fille Catherine, il y a Laurence, sa petite fille, et il y a son arrière petite fille qui s'appelle Julia. Et on sent bien effectivement à quel point la lecture de la lettre des parents de Denise la veille ou l'avant-veille avec Baptiste a servi de catharsis et a permis de libérer toute cette parole. Et plus tard dans le film, Catherine va pour la première fois avoir cette lettre entre les mains et d'ailleurs refuser de la regarder devant la caméra parce qu'elle considère que c'est trop important, trop intime. Et évidemment, on ne peut que trop bien la comprendre. Et elle va s'emparer enfin de cette histoire familiale.
Pour une productrice, il y a quelque chose d'assez émouvant de voir que l'interaction entre le réalisateur et son sujet produit quelque chose sur le sujet. Myriam Veil.
C'est toute la magie du documentaire, en fait. Quand on a affaire à une matière vivante comme celle-ci, quand on n'est pas dans un documentaire patrimonial, c'est effectivement de voir à quel point le documentaire a une influence sur la vie des protagonistes. Et elle continue d'en avoir d'ailleurs, puisque Denise, on continue de l'appeler, Baptiste évidemment à un rythme très régulier, mais même moi maintenant, à communiquer avec Catherine, avec Laurence, à quel point maintenant tous ces gens font presque famille, en fait. C'est assez étonnant.
Baptiste Antignani, dans le documentaire, on vous voit finalement retourner à Auschwitz, mais vous y retournez de manière très différente. C'est-à-dire que cette fois-ci, vous y allez armé, si j'ose dire, de tout le travail que vous avez fait, de votre rencontre avec Denise Holstein. Cette deuxième visite à Auschwitz, elle est absolument différente de la première.
Oui, déjà parce que faut pas l'oublier, c'est un film, donc je suis pas dans une configuration où je suis seul et je suis dans une démarche solitaire. Elle est très importante pour Denise. Enfin pour moi, en tout cas, c'est un retour à Auschwitz qui a été fait pour elle. C'est un lieu quand même. Voilà, on se retrouve dans une séquence près de la mare de cendres.
Alors il faut nous dire ce que c'est que cette mare de cendres.
La mare de cendres, c'est une mare où restent au fond des milliers et des milliers de cendres humaines, voilà, qui avaient été
enterrées, mais qui remontent et c'est devenu une espèce
en fait,
de marécage.
Il y avait tellement de cendres, de corps incinérés, que les nazis ne savaient plus quoi en faire et donc ils les déversaient dans la Vistule pas loin et puis aussi apparemment dans cette mare. Est-ce que t'as raconté Denise, c'est que elle s'est toujours imaginée que ses parents, qu'elle n'a jamais revus depuis le moment où elle a été séparée d'eux à Drancy, que ses parents, c'était la sépulture de ses parents, cette mare de sang.
Dans le camp même.
Oui, donc après, voilà, une longue amitié et puis beaucoup de choses vécues. Et puis le film a fait qu'on a vécu une expérience très forte ensemble. J'ai eu l'envie d'y retourner pour elle, parce que déjà elle peut plus se déplacer. Et voilà, comme l'a dit Myriam, c'est aussi une manière de rendre hommage à ses parents, qu'on a essayé de mettre à l'honneur à travers le film. Et voilà, sur le trajet, c'était une autre séquence qui était prévue, et puis j'ai eu envie de l'appeler. Et au final, on a fait une deuxième visite, voilà, au téléphone avec elle, où elle m'a guidé à travers le camp. Et on s'est retrouvés devant cette mare, à des milliers de kilomètres d'écart, mais elle était là, et je l'ai sentie extrêmement émue. Donc c'est plutôt un sentiment. Alors j'étais plus du tout à la recherche d'une émotion, plus du tout. Mais en tout cas, l'émotion que j'ai ressentie, c'était de la fierté, quoi. J'étais allé au bout de ma démarche et j'avais réussi à donner ça à cette dame qui m'avait beaucoup donné.
Cette fois-ci, c'est une visite où vous êtes en connexion, à la fois au téléphone, mais en connexion intime et intellectuelle avec Denise Holstein, Baptiste Antignani. C'est-à-dire qu'il fallait qu'elle vous accompagne, finalement. Auschwitz ne n'avait de sens que si vous étiez accompagné par la figure de cette survivante.
Mais parce que déjà, on peut se figurer son parcours dans le camp. Alors, voilà, elle m'a emmené dans un baraquement qui n'était pas celui-là, mais qui était vraiment semblable et similaire. J'ai pu l'imaginer dans cette situation-là. Donc voilà, c'est une deuxième visite qui est forcément extrêmement différente de la première et qui prend beaucoup de sens au final, une démarche mémorielle. Mais c'est en questionnant l'individu que je pense que le camp prend tout son sens.
Myriam Veil, est-ce qu'il y a aussi dans ce documentaire l'idée de lancer l'alerte à la fois sur la disparition des derniers survivants de la Shoah et sur le retour visible et marqué d'un antisémitisme en France, 75 ans après la fin de la guerre?
Il y a beaucoup de choses dans ce documentaire. Il y a, comme l'a dit Baptiste tout à l'heure, quelque chose de plus général sur la transmission intergénérationnelle. La transmission quand on n'appartient pas à la communauté aussi. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Et ce que Baptiste développe d'ailleurs dans le livre, un besoin, une nécessité d'universalisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quand même parfois porté par une injonction à ne s'occuper que des affaires de sa propre communauté d'origine. Ce que, personnellement, je trouve très triste. Et alors que de ce que Baptiste démontre dans ce documentaire, c'est qu'on peut être totalement extérieur à une histoire et être touché dans tout ce qu'elle a d'humain, en fait, parce qu'on est tous des humains et qu'on n'a pas besoin d'être de la même religion, de la même ethnie, d'avoir le même background, comme on dit en anglais, le même héritage, pour comprendre, pour être dans l'empathie et pour ressentir. Et alors, effectivement, pour revenir sur la deuxième partie de votre question. Au moment où on a commencé à faire les envois en service de presse du livre, est tombé ce chiffre sur l'augmentation de 70% des actes antisémites en France, et c'est sûr qu'on ne peut pas faire abstraction de cette réalité-là, et que le fait que ce film soit porté, cette parole soit portée par un jeune homme de 19 ans aujourd'hui, pour moi, est probablement un des outils les plus efficaces.
Serge Klarsfeld vous met un peu la pression, Baptiste Antignani, à la fin du film. Il vous dit à vous, mais en fait c'est à votre génération, de devenir les porteurs de l'histoire de la Shoah.
Bah, en tout cas, on pose un constat, c'est-à-dire que voilà, les derniers témoins vont disparaître. Comme l'a dit Myriam, il y a voilà, des choses graves qui se passent. Une société qui est complètement... qui n'est pas forcément sur les bons rails. Donc il y a un héritage, en tout cas, qui se passe. Alors, Serge Klarsfeld me dit que j'ai... un devoir d'être militant. Moi, je pense que on doit rendre honneur aussi à tout ce travail qui a été entrepris par ces générations, qu'incarne Serge Klarsfeld, Beat Klarsfeld, mais aussi Annette Viviorca qui sont dans le documentaire. Il faut entretenir la mémoire, ça c'est certain, et aussi être acteur de la société. Voilà. Mais il faut se poser aussi des questions en question sur notre génération. Il faut peut-être aussi qu'on se remette en question nous sur qu'est-ce qu'il y a d'intérêt aujourd'hui ? Quel est notre centre ? Est-ce que la connaissance, la culture, c'est le centre aujourd'hui pour les jeunes ? Alors, en tout cas, il faut se poser la question et avancer ensemble, comme tu l'as dit, vers une société mieux construite, je pense.
Je laisse ces mots se déposer dans l'esprit de nos auditeurs. Merci à tous les deux, cette émission s'achève. Myriam Veil et Baptiste Antignani étaient mes invités. Je rappelle donc la publication chez Fayard d'un livre qui s'appelle Une vie nous sépare, et vous avez donc Baptiste Antignani co-réalisé un documentaire qui porte le même titre. Merci à Emmanuel Demisco à la réalisation. Cette émission sera très vite en podcast sur le site de Fréquence Protestante. À bientôt.